Vous avez parlé justement de l'actualité de demain. Effectivement, cette motion de censure qui arrive, auquel les députés Renaissance se préparent, on l'a entendu tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de points d'exclamation autour du 49.3 employé la semaine dernière. Et en même temps, pardonnez-moi pour ça, beaucoup de gens qui ont atténué en disant que finalement, et beaucoup de constitutionnalistes qui sont venus ici même, dire que c'était la procédure normale. Et encore tout à l'heure, Sylvain Maillard qui disait en même temps, on a un budget à défendre, il faut bien qu'il passe, il faut un budget pour la France.
Je crois qu'il a plutôt raison, et les constitutionnalistes aussi. L'article 49, alinéa 3, fait partie de la Constitution, fait partie des armes qui sont pour une... pour une majorité. Il a très peu servi par le passé. Il a servi 28 fois sous Michel Rocard. Mais c'est vrai, et il y a une enquête IFOP-JDD aujourd'hui qui a été un peu éclipsée par l'interview de Nicolas Sarkozy sur la popularité du couple exécutif qui chute assez fortement. Et dans les raisons du mécontentement, on voit que le 49-3, alors que la scène parlementaire n'est pas très visible, apparaît dans les motifs de mécontentement très fort. Parce que maintenant... Le 49-3 a changé de nature pour les Français. C'est moins un gage d'efficacité, comme c'était pour Michel Rocard entre 88 et 91, que l'idée, ça réactive l'idée qu'Emmanuel Macron passe en force, qu'il est autoritaire, que la musique qu'on avait entendue au début du quinquennat sur la nouvelle méthode était peut-être du fake, était peut-être artificielle. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui va se passer demain n'aura pas beaucoup d'intérêt pour les Français. On sait très, c'est la chronique d'un rejet annoncé. Ça pèse infiniment moins que ce qui est majeur dans le discours des Français, à savoir les crispations socio-économiques et le pouvoir d'achat.
William T.
Moi, je ferai une comparaison entre ce qui se passe actuellement en France et ce qui s'était passé aux États-Unis à l'époque de Barack Obama lorsqu'il voulait faire adopter un budget. Et il y a une différence qui est notable, c'est-à-dire que si en France le budget ne passe pas, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires. Alors qu'aux États-Unis, Barack Obama faisait face à un blocage à l'époque de la Chambre des représentants et du Sénat qui était contrôlé par les Républicains, qui bloquait son budget, et ce qui s'appelait aux États-Unis à l'époque un shutdown, c'est-à-dire que l'État fédéral ne pouvait pas fonctionner. Et malgré tout, Barack Obama avait réussi à négocier avec les deux chambres pour faire passer un budget. Et Emmanuel Macron, qui aurait moins de contraintes sur un budget qui ne provoquerait pas un shutdown en France ou la fermeture de la cessation de paiement de la France, ne serait pas en capacité de négocier avec une opposition parlementaire qui domine malgré tout, même si c'est en majorité relative. Je pense que les Français lui reprochent ce point-là. Je pense qu'ils disent en gros... Le 49-3 est utile lorsqu'il y a une situation de blocage et que les institutions comme le référendum et les différents outils donnés au président de la République sont utiles lorsqu'il y a une situation de blocage. Est-ce qu'ils matérialisent une situation de blocage sur le 49-3 à l'heure actuelle? Non. Dans la mesure où ils se sont exprimés il y a quelques semaines, même il y a quelques mois, en juin dernier, pour donner une majorité qu'ils ont souhaitée, qui n'était pas absolue pour le président de la République, mais qui lui donnait une majorité quand même relative. Et je pense qu'ils attendaient d'Emmanuel Macron pour dire le message suivant. Vous avez été élu pour gérer la crise et pour être le parti de l'ordre, et que dans le même temps, sur votre programme, nous ne sommes pas d'accord avec vous en majorité, donc nous voulons que vous négociez avec les différents partis, le RN, LR, LFI et le Parti Socialiste. Actuellement, Macron ne le fait pas.
Est-ce que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de théâtralité et de théâtralisation autour de ce 49-3 et de cette motion de censure qui arrive demain?
Mais oui, parce que c'est évoqué depuis maintenant plusieurs semaines. Gabriel Attal, dans une interview dans Le Parisien, en parle, je crois, à la fin du mois d'août dernier. Il y a une scène parlementaire. Il y a, c'est vrai, ce nouveau paysage politique, cette nouvelle répartition de la Chambre qui est extrêmement inédite, que les Français apprécient.
Oui.
Dans tous les sondages, quand on leur demande,
et
même chez les électeurs d'Emmanuel Macron, une courte majorité, êtes-vous, je parle de ceux du premier tour, êtes-vous satisfait de la composition de l'Assemblée nationale? La réponse est oui, parce que on a enfin une assemblée qui semble correspondre au morcellement politique, au morcellement des forces politiques. Maintenant, les Français veulent une logique d'efficacité. Ils ne supporteraient pas une inaction, un blocage parlementaire. Et William Tay l'a très bien dit, ce ne sera pas le cas.
Mais ça veut dire qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Parce qu'ils veulent une assemblée plus hétérogène. Et on sait très bien qu'une assemblée plus hétérogène ne fonctionne pas. Puisque Sylvain Maillard l'a encore dit tout à l'heure, il y a un moment donné, il y a des blocages purs et durs. C'est-à-dire
qu'elle ne fonctionne pas quand on est...
C'est même pas la peine de discuter.
Mais nous sommes bien d'accord. Elle fonctionne difficilement quand il y a un bloc de gauche qui est anti-Macron de manière forcenée, un bloc de droite extrême. Il ne fonctionne pas quand il n'y a pas eu une coalition à l'allemande. On se souvient de ce qui s'est passé après les élections allemandes. Ce n'est pas notre manière de fonctionner, ce n'est pas la logique de nos institutions. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, on va y revenir, a plutôt raison. Quand on regarde, quand on analyse froidement ce paysage parlementaire, la seule voie de sortie pour Emmanuel Macron, ce serait une alliance, un contrat de gouvernement. Il n'a pas eu lieu, on sait pourquoi. LR le refuse, on sait également pourquoi. Donc la situation est bloquée. Mais attention,
donc,
l'opinion...
Il reste... Ouais. On va en arriver toujours à cette dissolution qui arrive comme un spectre.
Je n'y crois pas une seconde.
Et à laquelle, voilà, à laquelle personne ne croit. Ça, c'est quand même
parce que
c'est
personne
n'y
a intérêt. Oui, enfin, sauf peut-être le RN.
C'est une opération suicide. Enfin, cela dit, personne n'y avait intérêt quand Jacques Chirac a prononcé la dissolution non plus.
Lui, il croyait qu'il... Il croyait dur comme fer qu'il aurait une majorité absolue.
Oui, mais vous savez aussi bien que moi que le lendemain, il a bien vu qu'il avait... Il regrettait son geste.
Mais moi, sur le sujet d'Emmanuel Macron, est-ce que l'Assemblée est vraiment hostile à Emmanuel Macron dans la mesure où sur les textes pouvoir d'achat, il a pu trouver un accord avec les Républicains et sur différents sujets, il a pu trouver un accord avec différents partis. Est-ce que là, vraiment, le gouvernement a essayé de tendre la main aux Républicains en proposant clairement un pacte de gouvernement ou est-ce qu'ils ont dit simplement en convoquant le président du parti qui à l'époque était Jacob et qui n'avait plus aucune légitimité parce qu'il partait
Christian Jacob.
Il partait de toute façon. Est-ce qu'ils ont vraiment proposé, est-ce que Emmanuel Macron a fait l'effort de proposer un véritable pacte de gouvernement? Si c'est en gros dire, bah, venez là, vous levez la main pour soutenir mon projet, bah, évidemment qu'ils ont dit non. Si par cas il avait fait une proposition qui était plus précise, peut-être, et c'est ce que demande Nicolas Sarkozy dans son interview.
Vous oubliez de dire pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas parce
mais non, mais il ne le fait pas parce qu'il est bloqué par son aile gauche.
Merci.
Évidemment, c'est pour ça. Mais c'est à lui de faire le choix. Et donc, il a raison.
C'est passé par
Maillard,
les ministres aussi.
Oui, et Sylvain Maillard, peut-être qu'il a passé de ministre, il a passé de poste à donner. Mais Sylvain Maillard a raison de faire porter la responsabilité sur LR. Mais la réalité, c'est que la responsabilité est partagée parce qu'en fait, aucun des deux ne voulait cette alliance. Dans la mesure où ils étaient sur une logique qui était politicienne et qu'une partie d'En Marche n'en voulait pas parce qu'il pensait déjà à l'après. Il ne voulait pas faire de pacte avec LR, notamment l'aile gauche et les Mormons d'Emmanuel Macron. Ses journées, etc. Ensuite, après, il y a un deuxième...
Cela dit, je vous arrête une seconde, et on n'est pas du tout en train de faire de la politique fiction, mais il y a une hypothèse à laquelle on n'a pas pensé, c'est que peut-être que Emmanuel Macron, un jour, voudrait se débarrasser de son aile gauche. Et ça, on ne sait pas.
Bah, s'il veut se débarrasser de son aile
gauche. Si Nicolas Sarkozy fait cette interview ce matin au JDD, c'est que cette hypothèse, même si elle est infime, elle existe.
Elle est infime. Je trouve qu'elle serait extrêmement risquée. Qu'est-ce que le macronisme, un, c'est un pragmatisme, deux, c'est un dépassement des clivages, et prenons des sondages.
Oui, mais ça peut évoluer, ça.
Oui, bien sûr, mais justement, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais prenons les deux dernières enquêtes de popularité, IFOP Fiducial pour Paris Match, IFOP JDD de ce matin, il y a quand même un petit tiers de sympathisants de gauche, de gens qui se positionnent à gauche, qui sont satisfaits, ou qui ont même une bonne opinion d'Emmanuel Macron.
Si vous enlevez ce tiers, évidemment.
C'est
la pub du Boursin. Après, il reste plus.
Exactement. Rien. Je vous laisse la responsabilité de cette belle image publicitaire. Mais moi, j'aime pas le fromage. Mais c'est vrai que.
On le retiendra.
C'est vrai que ça serait dangereux parce que ça serait vraiment une rupture majeure, comme on en a rarement vu pour un président sous la cinquième, de ce qu'il est, de son ADN électoral. Ça sera encore plus fort que le Mitterrand. Du tournant de 83 ou du Jacques Chirac du tournant de 95.
William T.
Moi, je vois un autre point en termes d'astuce pour Emmanuel Macron, c'est pourquoi est-ce qu'il ne propose pas des projets en termes... Si par cas, les députés LR ne veulent pas, admettons qu'il propose la réforme des retraites devant les députés LR ou qu'il propose un budget qui est similaire aux attentes des députés LR. Est-ce que les députés LR pourront ne pas voter.
En fait, c'est assez similaire.
Ouais, oui, justement, ils seront je pense qu'ils vont être obligés de le voter dans la mesure où c'est ce qu'attendent ses électeurs. Et c'est là où il a deux leviers possibles. Proposer des textes qui sont en rapport avec les attentes des électeurs LR et des députés LR, et ensuite agiter la menace de la dissolution, non pas pour la faire, mais pour dire aux députés LR pour qu'ils retournent dans leur circonscription et que leurs électeurs fassent pression sur les députés LR afin de faire voter les textes. C'est ça la deuxième possibilité. Ouais. Soit il fait une coalition, soit il leur impose une coalition de fait auquel il serait obligé. Et c'est là les deux solutions possibles pour Emmanuel Macron. À l'heure actuelle.
William T, c'est le type qu'il ne faut jamais emmener au cinéma parce qu'en fait, il vous raconte le film avant même qu'on l'ait vu.
Mais parfois, William, un film peut surprendre. Et il ne faut pas oublier qu'une dissolution, ça serait d'abord pas une bonne affaire pour le parti sortant, pour la force sortante dans un contexte économique si compliqué, d'angoisse sociale, de pessimisme jamais vu pour les Français. Oui, LR serait fragilisé, peut-être qu'en essence ce serait encore plus, mais là, je ne fais pas de politique fiction.